L'invité du grand entretien ce matin, Pascal Perrineau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po. Vous avez publié en novembre aux éditions Plomb le grand écart chronique d'une démocratie fragmentée. Les questions des auditeurs de France Inter d'ici une dizaine de minutes. Pascal Perrineau, nous en sommes au 27e jour de grève contre la réforme des retraites. Et puis malgré les blocages dans les transports, notamment en région parisienne particulièrement touchée, eh bien selon les derniers sondages, l'opinion publique soutient toujours les grévistes, comme si la défiance l'emportait finalement sur l'inconfort. Comment on l'explique?
Parce que nous sommes depuis de très longues années dans ce qu'on appelle une société de défiance. Vous savez, quand on compare ce qui est comparable des données d'opinion dans les pays européens, la France est un des pays les plus défiants. Les plus défiants par rapport au monde d'en haut, que ce soit les institutions publiques, les institutions privées, et bien sûr les partis politiques, les élus. Et cette défiance, elle est présente au cœur du mouvement social que nous connaissons. On voit très bien dans toute une partie des acteurs de ce mouvement social, on voit très bien ce qu'ils rejettent, on voit moins bien ce qu'il propose parfois comme système alternatif. C'est en particulier très valable en ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler le front du refus syndical. On est bien dans une culture française qui est une culture où l'on regarde toujours avec réticence le compromis. Le compromis est vécu souvent en France par les acteurs sociaux, comme par parfois l'État, comme étant une compromission.
Mais cette fois, au-delà du malaise, est-ce qu'il y a un problème Macron ?
Oui, bien sûr, il y a un problème Macron qui n'est pas nouveau, qui a été, comment dire, cristallisé il y a un an, au moment du mouvement des Gilets jaunes. On a vu dans ce mouvement des Gilets jaunes naître et se développer un antimacronisme. C'est là où l'antimacronisme s'est durci. Certes, il y avait, depuis la fin de l'année 2017, le début de l'année 2018, il y avait ce qu'on pourrait appeler un antimacronisme léger, light, le thème du président qui favorisait un peu trop les riches, à partir de la réforme de l'ISF, etc. Mais ça ne s'était pas durci. En revanche, avec le mouvement des Gilets jaunes, ça s'est durci. La cible, ça n'était pas le gouvernement, ça n'était pas le patronat. Vous étiez au cœur du mouvement des Gilets jaunes, on entendait très peu parler des acteurs économiques, du patronat. On entendait parler, semaine après semaine, de Macron, Macron démission, et parfois avec un langage qui traduisait une certaine violence, et parfois, oui, presque une certaine haine.
Et ça, c'est très différent, Pascal Perrineau, des précédents quinquennats et de l'impopularité qui a fini par toucher tous les chefs d'État.
Alors, on a connu, par exemple, l'anti-sarkozisme a été, une époque, quelque chose d'extrêmement dur. L'anti-hollandisme, je ne dirais pas. Il y avait plutôt même une certaine indifférence par rapport au destin du président de la République, François Hollande. En revanche, avec Emmanuel Macron, on retrouve des accents qu'on avait pu trouver avec Nicolas Sarkozy, sachant qu'au fond, l'impopularité des présidents de la République, ça toujours existé, mais ça n'atteignait pas un tel niveau, ni avec De Gaulle, ni avec Pompidou, ni avec Giscard, ni avec Mitterrand. Ça commence à apparaître lors du deuxième mandat de Jacques Chirac, et depuis, ça s'est durci, parce que ce sont des présidences qui sont associées à des présidences de crise.
Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes et celui aujourd'hui contre la réforme des retraites, c'est la même colère, c'est le même malaise ?
Alors, je ne dirais pas, c'est pas tout à fait la même colère. Les individus concernés ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour aller vite, c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes, c'était la protestation d'une France des périphéries qui était enfoncée dans le silence. C'était la prise de parole de ce qu'on appelait la France invisible, la France des silencieux. Une France qui n'avait pas l'habitude de manifester. J'ai été frappé quand on analysait les Gilets jaunes que très souvent c'était des primo-manifestants. C'était des gens qui pour la première fois allaient manifester. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, j'allais dire, il y a un côté plus classique dans le mouvement social. On a affaire à des syndicalistes, à des gens qui ont l'habitude de battre le pavé parisien et le pavé des grandes villes.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une similarité avec ce thème de la justice sociale, finalement, entre les gilets jaunes et puis la mobilisation d'aujourd'hui contre les retraites? C'est une défiance sur la capacité de l'exécutif à apporter de la justice sociale.
Oui, on est bien en France et on le sait, depuis Tocqueville au 19e siècle, l'égalité est une passion française. Et même parfois, l'égalité tourne à l'égalitarisme. Et on le voit bien dans le mouvement des gilets jaunes, on le voit bien dans dans le mouvement social de la réforme des retraites, avec au fond un malentendu, mais dans le malentendu il y a toujours un malentendant. Il y a d'un côté un chef de l'État, un pouvoir qui dit au fond ce régime des retraites c'est pour promouvoir plus d'égalité, plus d'équité des Français devant la retraite, et de l'autre côté des acteurs syndicaux qui disent non, pas du tout, ou alors il faut ficeler autrement le régime des retraites. Mais on voit bien, oui, vous avez raison, que ce qui est en débat, c'est bien la capacité de ce régime à promouvoir plus d'égalité.
Pascal Pahénaud, les vœux du président, c'est ce soir à 20h, nous sommes à mi-quinquennat, nous sommes donc aussi pour la deuxième fois en 3 ans en pleine crise sociale. Le président, est-ce qu'il a la capacité de débloquer la situation? Est-ce qu'il peut inverser la tendance ce soir dans son discours?
Alors, inverser la tendance, il peut l'infléchir. Jamais un discours des vœux, quel que soit le talent de celui qu'il prononce, n'est l'occasion d'inverser profondément la tendance. Mais si l'on prend il y a un an, on s'aperçoit qu'après un mois de décembre calamiteux, souvenons-nous, il y a un an, pour le pouvoir, à partir du début janvier, les choses commencent à s'infléchir. Mais il y avait à l'époque le processus du grand débat qu'avait quelque peu calmer la tension. Cette fois-ci, il n'y a pas de grand débat. Et donc, la réponse, j'allais dire, c'est d'organiser un petit débat, mais un petit débat avec les acteurs sociaux. J'étais frappé en écoutant tout à l'heure la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher de dire « il s'agit de rassurer les Français ». Attention, les Français n'ont pas besoin d'être rassurés. En revanche, ils veulent négocier, et négocier au travers de tout ou partie du mouvement syndical qui est prêt à négocier, en particulier sur ce qui continue à poser problème. On le voit bien avec la CFDT, qui tout de même est le premier syndicat français dans le privé et le public. Eh bien, c'est de négocier sur ce qui fâche, et en particulier l'âge pivot.
Et donc là, vous trouvez qu'il y a un malentendant qui est supérieurement malentendant par rapport à un autre?
Oui, il y a un malentendant en effet, parce que mais c'est pas nouveau vis-à-vis de la CFDT. Déjà il y a un an, sans retourner sans cesse en arrière, la CFDT avait fait des offres de services et la main tendue n'avait pas été saisie par le pouvoir. On est bien en France d'ailleurs, que les gouvernants soient de gauche comme de droite.
La démocratie sociale.
Voilà, on a un véritable problème avec la démocratie sociale. Or, la démocratie sociale, ça marche. Regardez la manière dont les retraites dans le privé, au travers de l'argent Carco, sont bien gérés. Il y a un système de gouvernance paritaire avec les acteurs syndicaux et ça marche bien.
Donc finalement, Pascal Pahénaud a annoncé l'acte 2 du quinquennat avec plus de dialogue. Tout ça pour arriver à cette situation. C'est quoi? C'est un ratage? C'est un loupé?
C'est-à-dire qu'en effet, cet acte 2 qui devait donner une autre tonalité, qui avait été presque théorisé d'ailleurs par le chef de l'État, par les membres du gouvernement, on en attend les signes tangibles, parce que ça n'est pas facile de changer de pied au milieu d'un quinquennat. On est ce qu'on est, ce sont les élites technocratiques qui sont à la manœuvre,
Mais depuis, Pascal Pahénaud, le grand débat. Vous-même, vous avez été l'un de ceux qui avait été retenu pour l'encadrer. Est-ce que ça n'a pas changé? Est-ce que Emmanuel Macron, est-ce que le gouvernement n'a pas changé en un an?
Écoutez, il y a eu des inflexions. D'ailleurs, au début, la manière dont cette réforme des retraites a été pensée, ça n'était pas mauvais sur le papier. Il y a eu, au travers de la commission Delevoye, il y a eu une véritable tentative d'organiser une consultation longue, attentive, mais vous voyez que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et ça n'a pas suffi parce que le diable ensuite se cache dans les détails. Certes, les Français étaient d'accord sur une réforme des retraites avec une dimension universelle, plus équitable. Mais ensuite, on rentre dans le détail. C'est ces détails qu'il faut négocier.
Alexandra.
Et donc, que peut-il se passer à présent, Pascal Pahénaud? Parce que ce projet, il doit être présenté en Conseil des ministres le 22 janvier. Il va y avoir des négociations, mais en même temps, la CGT, a-t-elle raison, accuse le gouvernement de jouer le pourrissement.
Alors, ils vont être obligés, à mon avis, de négocier s'ils veulent se sentir par le haut. Les acteurs, ni l'acteur syndical, ni l'acteur étatique, n'a intérêt à jouer la seule stratégie du pourrissement. Pourquoi? Parce que l'opinion est préoccupée. Il suffit de regarder les enquêtes d'opinion. On n'est pas loin des municipales. L'année prochaine, ce seront les régionales et les départementales. Et commence à se profiler l'élection présidentielle. Ça se prépare en amont, ces grandes rencontres avec le peuple français. Et donc, je crois qu'ils ont intérêt à en sortir par le haut. On voit bien que le front syndical est divisé entre la CFDT, l'UNSA d'un côté, on le voyait à propos de l'UNSA en ce qui concernait la trêve de Noël déjà. On voit bien que, par exemple, sur certains dossiers, certes, pas essentiels au sens quantitatif du terme, sur les danseurs et les danseuses de l'opéra, sur les pilotes de ligne, déjà, les choses ont bougé. Il suffit, j'allais dire, de continuer ce processus vertueux du dialogue autour de la notion d'âge pivot.
Pascal Perrineau, est-ce que finalement, il n'y a pas aussi un problème avec le dialogue avec les syndicats ? C'est-à-dire, quelle est la position d'Emmanuel Macron vis-à-vis des syndicats ?
Alors, si vous voulez, au départ, c'était une position qui était une position négative. Quand le candidat Macron naît, apparaît sur la scène politique, il condamne tous les corps intermédiaires et il dit au fond la nouvelle politique qui s'invente, c'est une politique qui supprimera tous ces organisations ringardes du vieux monde, les partis, les syndicats. Et puis une fois au pouvoir, eh bien ce nouveau monde a découvert qu'il fallait qu'il fasse aussi avec ces institutions du vieux monde qui font de la résistance. Mais il ne faut pas, si vous voulez, oublier que on est tout de même dans une situation française où il y a un gros problème. Les acteurs syndicaux ne sont pas très représentatifs. Il faut savoir que le taux de syndicalisme en France, c'est environ 10 à 11% de la population salariée qui est syndiquée. Donc on a d'un côté des acteurs parfois assez peu représentatifs. On l'a vu dans la genèse du mouvement. D'ailleurs, ça venait de la base. Les syndicats ont été un peu activés par leur base. Et puis, de l'autre côté, on a au niveau central l'État. Et vous voyez, il y a là une espèce de dialogue entre des citoyens assez mal encadrés par les corps intermédiaires, que ce soit les partis comme les syndicats, et un État qui tente de délivrer une vérité d'en haut. Je dirais, j'y réfléchis quand j'ai écrit mon livre, c'est une démocratie qui n'est pas très mature. C'est une démocratie qui manque de la qualité décisive de la démocratie, c'est de dialoguer avec des adversaires. Les adversaires ne sont pas des ennemis dans une démocratie.
Nous avons un autre à ce sujet, Pascal Perrineau. Jean-Louis, bonjour.
Non, je fermais.
Vous nous parlez du 15e arrondissement de Paris, je crois bien.
Tout à fait.
Bienvenue sur France Inter. Vous avez une question pour Pascal Perrineau, à propos de la démocratie, justement.
Oui, mais je voulais savoir si on doit qualifier le système actuel de démocratie ou de particratie, dans la mesure où les élus représentent plus le parti plutôt que, disons, les électeurs, disons, de leur circonscription.
Donc un problème de représentativité là aussi. Jean-Louis, merci pour votre appel. Pascal
Perrineau. Oui, on parle depuis quelques minutes, on parle beaucoup de la faible représentativité des syndicats, mais alors, quand on parle de la représentativité des partis, c'est encore bien pire.
17 000 adhérents à LREM.
Bien sûr. Et c'est le cas pour tous les partis. Les partis français sont de véritables nains, au regard d'ailleurs de beaucoup de pays étrangers. Hein. On a des partis beaucoup plus conséquents. On estime que c'est à peu près 2% de la population électorale qui appartient à des partis. Donc les partis sont très peu représentatifs, mais comme le dit votre auditeur, les partis jouent un rôle essentiel dans la sélection des candidats. Au fond, les partis peu à peu se sont vidés de leur capacité à organiser le débat, à proposer aux Français des scénarios pour l'avenir, et c'est devenu, avant tout, ce sont devenus très souvent des machines à distribuer le pouvoir.
Alexandra.
Et où sont les solutions, Pascal Perrineau ? C'est un sujet qui a été beaucoup abordé dans le grand débat, donc vous avez été le garant. Pour renouveler la démocratie, ils avaient une proposition phare, par exemple, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, parmi d'autres.
Voilà. Alors, je crois que, si vous voulez, la démocratie représentative, parce que c'est ça dont on parle, issue des urnes, elle est fatiguée, elle est en crise. Bien sûr, il ne s'agit pas de supprimer les élections, c'est tout de même des élections pluralistes, c'est un des critères décisifs de la démocratie. Mais on voit bien qu'entre les grandes élections, il faut imaginer d'autres processus. Et je crois qu'il y en a deux, essentiellement. Il y a d'abord la démocratie participative, c'est ce qui s'est passé avec le grand débat national, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur l'enjeu climatique. Hein, il y a une conférence de citoyens avec un échantillon de Français tiré au sort et patiemment on est en train de construire une proposition de loi qui sera soumise à la démocratie représentative sur cette affaire de l'enjeu climatique. Donc la démocratie participative doit être développée. Et puis il y a le retour à la démocratie directe. Écoutez, depuis 2005, on est saisi d'une espèce de tétanie. Ah, une fois le peuple a dit non, Il avait déjà dit non d'ailleurs en 1969. Il a dit non dans un référendum. Le référendum tombe en désuétude. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le référendum est une arme essentielle de l'expression de la souveraineté populaire. C'est inscrit dans la Constitution. Et je crois qu'il y a place pour le retour du référendum. Et en particulier, on le verra si le président fait des propositions plus avant sur le terrain institutionnel, un véritable référendum d'initiative partagée. Il est déjà inscrit dans la Constitution. On peut imaginer qu'en baissant le niveau de signature, parce qu'aujourd'hui c'est plus de 4 millions, le niveau de signature de citoyens pour initier cette procédure du référendum d'initiative partagée, eh bien on peut estimer que, voilà, dans les années qui viennent, on revienne sur quelques grands sujets à un référendum.
Donc trois démocraties, si j'ai bien
compris. Trois démocraties.
Représentatives, consultatives et directes.
Et directes.
Vous dites dans votre livre, Pascal Perrineau, que nous vivons une période de changement très profond. On abandonne un ancien monde pour un nouveau monde. Mais c'est pas ce qu'avait promis Macron, justement, le nouveau monde.
Alors, si vous voulez, le problème, c'est qu'on ne passe pas de l'ancien monde au nouveau monde en claquant des doigts. Certains ont pu croire qu'en 2017, ça y est, les anciens partis n'étaient plus au second tour et s'inventaient un nouveau duopole, celui de Macron et de Marine Le Pen. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez, c'est un marxiste italien qui s'appelait Gramsci qui disait quelque chose d'intéressant sur la crise. Il disait « la crise, c'est quand le vieux meurt et que le neuf hésite à naître ». Eh bien, on y est. Un vieux monde, de vieilles organisations sont en train de mourir, de se recomposer, sont travaillées par le changement, ont du mal à s'adapter, et le neuf hésite à naître. Oui, est-ce que La République En Marche aujourd'hui est véritablement une organisation nouvelle? Ou est-ce qu'elle n'a pas tous les défauts des organisations anciennes? On peut se poser légitimement la question.
À gauche, justement, il y a cette critique de dire ça n'est pas du tout le nouveau monde, c'est un gouvernement de centre-droit comme on en a connu. Qu'en pense le politologue avec évidemment votre regard, votre perspective historique?
Alors, on peut être en effet interrogatif. On voit bien que parfois un nouveau monde est difficile à faire vivre avec des hommes et des femmes qui viennent d'un système de sélection et en particulier de sélection des élites qui appartient à l'ancien monde. Quand vous regardez, par exemple, le profil du personnel gouvernemental, vous vous apercevez que par rapport à ce qui existait sous les gouvernements de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy ou de Jacques Chirac, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement profond. Quand vous regardez le profil des députés de La République En Marche, on a rarement eu une Assemblée nationale qui représentait autant les classes moyennes et les classes supérieures, par exemple. Donc les choses n'ont pas profondément changé ou pas autant changé qu'on a bien voulu le croire.
Alors on a beaucoup de messages d'auditeurs qui nous disent à quel point ils sont déçus, à quel point ils se sentent trahis aussi. Macron s'était dit ni à gauche ni à droite, finalement il applique une politique de droite, nous dit cet internaute. Et puis nous avons aussi Jean-Marie depuis La Rochelle. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour, bonjour à toute la France Inter.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes vraiment marqué par ces inégalités, cette injustice sociale dont on parlait au début de l'interview avec Pascal Perrineau.
Oui, mais Monsieur Perrineau parlait de la personnification de la haine contre la personne du président Macron. Moi, je pense surtout qu'il est le symbole d'un système qui ne change pas. Vous venez d'en faire la démonstration avec les partis politiques, mais surtout du système économique mondial ou autre qui fait de plus en plus d'inégalités. Et donc la réaction est de plus en plus forte parce que le sentiment d'inégalité est de plus en plus fort, surtout.
Jean-Marie, merci pour cette question. Pascal Perrineau, est-ce qu'on est à la fin d'un cycle et que nos gouvernants, nos décideurs ont du mal à se l'avouer?
Alors, à la fin d'un cycle politique, je crois, pour parler ce dont fin d'un cycle économique, on voit bien revenir des idées qui n'étaient pas là encore il y a 2 ou 3 ans. C'est la nécessité, par exemple, de réinventer un État-providence. Vous voyez, on n'était pas dans ces problématiques il y a 2 ou 3 ans. Et en matière politique, moi, ce qui me frappe, c'est que la démocratie telle qu'on l'avait réinventée après la guerre sur les débris des régimes autoritaires que l'Europe et la France avaient connus, ce cycle est en train d'arriver en fin de course. Et qu'il faut réinventer autre chose autour, en particulier, de ce que je propose dans ce livre, qui est l'articulation, et il faut la penser, mais c'est tout à fait possible, entre une démocratie représentative, qu'on peut d'ailleurs toiletter au niveau du mode de scrutin en particulier, et puis la démocratie participative, auquel on peut donner une ampleur qu'elle n'a pas en France, qu'elle a dans d'autres pays, en particulier dans les démocraties d'Europe du Nord, et le retour à la démocratie directe, qu'il ne faut pas galvauder, il ne faut pas utiliser à tout bout de champ le référendum, parce que le référendum, ça peut être la meilleure des armes comme la pire des armes, mais le référendum sur de grandes questions de société pourrait très bien être utilisé.
Certains à gauche, et puis certains auditeurs que je viens de citer, reprochent à Emmanuel Macron finalement de ne pas s'assumer en tant que président de centre-droit. Est-ce que c'est l'un des nœuds du problème aujourd'hui sur les retraites? Alors, notamment
si vous voulez, il faut revenir aux origines de Macron. Macron a bien précisé, je suis et de droite et de gauche. Hein. Donc on a eu peut-être une période où on se disait, voilà, c'est un président et de gauche, son itinéraire, ancien ministre de l'économie et des finances de François Hollande, et de gauche, mais d'une gauche qui s'assume en tant que telle comme plutôt social-libérale, ce qui est un tempérament qui est très peu présent dans la gauche française historiquement, hein, très très peu présent. Et ça peut surprendre parfois un électorat de gauche. Je vous ai parlé de la gauche, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. C'est des gauches. Il y a des gauches et des droites. Donc, il y a certainement, si vous voulez, ce tempérament. Puis maintenant, on découvre plutôt, j'allais dire, l'autre face, c'est et de droite. Parce que, voilà, il est attentif aussi à ce qui se passe dans les enquêtes. J'ai regardé attentivement, par exemple, la dernière consultation des européennes. C'est la dernière consultation grandeur nature que l'on ait. Et on voit bien comment, Emmanuel Macron a progressé dans l'électorat qui avait voté François Fillon au premier tour de la présidentielle. Alors à l'époque, c'était pas tellement sur le terrain économique et social, c'était sur le terrain plutôt sécuritaire.
Cette fermeté que l'on observe actuellement de l'exécutif dans cette réforme des retraites, est-ce que c'est une façon de consolider ces sympathisants qui viennent de la droite?
Oui, peut-être. En effet, il y a un signe, j'allais dire, d'un pouvoir droit dans ses bottes, comme disait Alain Juppé en 1995. Mais attention, ce style d'autorité, là aussi, est en train de changer. Certes, les Français ont besoin aussi de verticalité. Nous avons tous besoin de verticalité, mais l'autorité, comme ça, qui vient d'en haut, qui diffuse une vérité, entre guillemets, qui peut être contestée, ça appartient ainsi aussi un peu à l'ancien monde. Et faut se méfier d'une autorité qui serait purement jupitérienne, parce que certes, Jupiter donne la foudre, mais quand il commence à la recevoir, là, ça devient plus compliqué.
Oui, vous dites d'ailleurs que c'est un président qui gouverne assez seul, qui mène le pouvoir en solitaire. Quelle solution pour satisfaire alors les désirs d'horizontalité, la décentralisation? Vous dites vous-même que c'est un serpent de mer, Pascal Perrineau. Alors on fait quoi?
C'est un serpent de mer, mais je crois que pour que la démocratie française devienne une démocratie plus vivante, plus solide, ça doit être notre avenir. Au fond, on parle de la décentralisation depuis 1980, mais la décentralisation française, on parle d'acte 1, d'acte 2, d'acte 3, mais reste une décentralisation extrêmement timide. Et très souvent, l'État central reprend d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Et dans un pays où il n'y a pas de corps intermédiaires, extrêmement conséquent.
Hein, la démocratie... les syndicats, les corps intermédiaires?
Oui, c'est les syndicats, les partis, mais on voit bien, ils sont faibles, on ne va pas changer ça. En revanche, installer dans la position de corps intermédiaires des régions fortes, des collectivités, des intercommunalités fortes, ça, je crois que c'est une solution d'avenir.
Si on regarde le calendrier, il y aura peu de temps entre cette séquence des retraites et les municipales. Que peut-il se passer?
Alors, on verra ce soir si, indépendamment des retraites, il y aura des annonces, éventuellement des annonces en dehors de ce domaine des retraites. Je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je suis incapable de vous éclairer sur ce sujet. La scène locale est très différente de la scène nationale, surtout pour ces municipales. On s'aperçoit que, voilà, regardez par exemple La République en marche, ici elle est associée à la droite, ici elle est associée à la gauche, ailleurs elle va toute seule au combat. Donc, quelles que soient les évolutions nationales, on aura certainement une autonomie assez forte des scènes municipales.
Dernier mot et court, Pascal Perrineau, cette nuit on passe à 2020, ça ne vous aura pas échappé. Est-ce que Macron pense à 2020 ou 2022?
Ah, il pense à 2022, d'ailleurs c'est explicite dans son discours, mais 2022 se prépare peut-être en 2020.
Pascal Perrineau, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Inter, politologue et professeur à Sciences Po, ce dernier matin de 2019 sur France Inter. Vous l'avez partagé avec nous, merci encore.